Ok, reste comme ça, ne bouge pas, un grand sourire. Je veux te prendre sous un bon angle. Arrête donc de bouger.
Je suis jolie comme ça.
Tu es très bien, mais je n'aime pas ce cadrage. Non, je préférerais une autre pose. Et si tu t'asseyais, hein, ok?
Je me sens comme une star.
Ah oui, ça c'est bien mieux. Et souris maintenant. Bien, garde le sourire. Super. Elles seront super.
Attention.
Oh, je tombe.
Attention, l'appareil. Tu ne t'es pas fait mal?
Je suis content que l'appareil ne soit pas mouillé. Je vais faire développer le film au plus vite.
Oh, j'espère que les photos seront réussies.
Elles seront parfaites. Je suis un excellent photographe.
Oh, l'appareil fait tout le travail pour toi. Tout ce que tu fais, c'est d'appuyer sur le bouton.
Oui, c'est ça le talent.
Je n'ai jamais compris comment un appareil pouvait faire des photos.
Je vais t'expliquer. L'appareil prend la lumière et la met sur le film. Tu comprends?
Mais comment mon image arrive sur le film?
Eh bien, c'est facile. Interrogeons l'ordinateur.
Ordi en photo.
Coucou, me voilà.
Oh, revoilà notre ami Ordi.
Bonjour, vous n'avez pas très bien compris comment se fait une photo? Eh bien, je vais tout vous raconter sur la photographie. Allons-y, hop là. Ouais. Prendre des photos, vous avez besoin d'un appareil. Et bien sûr d'un film. Sans film, aucun appareil ne peut prendre des photos, tout le monde sait ça. Mais savez-vous ce qui vint en premier?
L'appareil?
Eh oui, l'appareil fut inventé d'abord et le film bien plus tard. Nous voici en Europe au XVIIe siècle. Cette boîte ressemble peut-être à un appareil photo, mais n'en est pas vraiment un. Bien sûr, il y a une optique, mais en fait c'est un instrument qu'employaient certains artistes pour dessiner. Salut l'artiste! Eh!
Mais qui es-tu?
Je suis Ordi, photographe. Il ignore qu'il est photographe car la photographie n'a pas encore été inventée. Excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous me dire comment votre appareil fonctionne?
Avec plaisir. C'est une caméra obscura et elle projette une image sur un papier pour que je puisse la copier.
Mais d'où vient ce nom caméra obscura?
Eh bien, nous avons emprunté ces mots au latin. Caméra obscura signifie chambre noire. Dans une chambre noire, il y a un petit trou sur l'une des parois. Les rayons lumineux qui pénètrent par ce trou forment une image sur la paroi opposée. Seulement, l'image est à l'envers. À la place d'un simple trou, ma caméra obscura a une lentille convexe et également un miroir incliné qui me renvoie l'image à l'endroit. L'image se forme sur ce verre dépoli.
Oui, avec les couleurs et les détails.
Et comme ça, je peux en faire une copie exacte en dessinant l'image projetée sur le dépoli.
Formidable! Ne serait-ce pas encore mieux si ce paysage devenait directement une image avec les couleurs et tout le reste?
Bien sûr, ce serait mieux. Mais c'est impossible. Je suis un bon artiste, mais pas un magicien.
Il était si près de devenir un photographe si seulement il avait su. Les appareils photo modernes s'inspirent toujours du principe de la caméra obscura. Mais ils sont devenus plus petits, plus maniables et plus perfectionnés.
Mocus, dominocus. Mocus, mocus, domino, mocus. Ça n'a pas marché. Encore un échec. Pendant un moment, j'ai cru que cette fois j'avais obtenu de l'or, mais non!
Cet homme est un chimiste. Il essaye de faire de l'or. Il croit réussir avec des formules magiques. Nous savons que cela est impossible, mais ne le lui dites pas. Au XVIIe siècle, on ne faisait pas de différence entre la chimie et la magie.
Est-ce que vous vous moquez de moi?
Non, je ne me permettrai pas. Pas moi. Les alchimistes ne sont jamais parvenus à produire de l'or. Mais au cours de leurs expériences, ils ont fait réagir des produits chimiques sur des métaux. C'est ainsi qu'ils ont découvert le nitrate d'argent et le chlorure d'argent. Ces sels d'argent devaient leur paraître magiques. Car exposé à la lumière, ce mélange blanc, blanc, blanc devenait noir, noir, noir. Avez-vous remarqué que ce composé d'argent vire au noir après avoir été exposé à la lumière?
Pourquoi ça ne se transforme pas en or? Qu'y a-t-il de si excitant à ce que cela devienne noir?
On pourra faire usage d'une telle propriété. Pensez-y.
Quel usage pourrait-on faire d'un tel phénomène? Moi, j'essaie de fabriquer de l'or. Et toi, qu'est-ce que tu fais chez moi à part te moquer de mes expériences? Oh, tout le monde se moque de moi, mais un jour, je trouverai la formule magique et je ferai de l'or. Tu m'entends?
Oh, mon Dieu! Rien d'autre ne l'intéressait que d'obtenir de l'or. Le fait que les sels d'argent viraient au noir une fois exposés à la lumière n'intéressait personne. Ils étaient tellement obsédés par l'idée de fabriquer de l'or que le reste ne les intéressait pas. Regardez ça! Aujourd'hui, nous enduisons les films de sels d'argent. C'est pourquoi ils virent au noir dès qu'ils sont exposés à la lumière. Ils sont photosensibles. Ce mot désigne tout ce qui est sensible à la lumière. Ça saute tellement aux yeux, j'ai essayé de le dire à ce pauvre idiot d'alchimiste.
Mais oui, j'aurais pu être photographe.
En 1727, des expériences sérieuses sur les sels d'argent furent menées par un chimiste allemand du nom de Johann Heinrich Schulz.
Oui, ça devrait aller.
J'ai envie de voir cette expérience. Puis-je savoir ce qu'il y a dedans, monsieur Schulz?
Patientez une seconde et je serai heureux de te le montrer.
Ah! Qu'est-ce que c'est?
Tu vois, dans cette bouteille contenant une solution de sel d'argent, j'ai ajouté de la poudre de craie.
Ah!
C'est une expérience de photosensibilité. Et maintenant, je vais mettre ce flacon sur l'appui de fenêtre où il sera exposé à la lumière. Et voyons ce qu'il se passe.
Oh! C'est vrai, cela devient noir.
Oui, mais seules les parties que j'ai découpées ont pu être exposées à la lumière. Si tu enlèves le papier, tu verras.
Ok. Vous avez raison, cela donne une image parfaite. C'est merveilleux.
Les parties couvertes par le papier noir n'ont pas été exposées à la lumière. Elles sont donc restées blanches.
Mais qu'arrive-t-il? Tout devient noir maintenant. Le soleil fait disparaître l'image, monsieur Schulz.
C'est ça le problème. Quand on enlève le papier noir, tout est exposé.
L'image n'est donc que temporaire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas trouver un moyen de préserver l'image pour la rendre définitive?
Je crains que non. Rien que je connaisse.
Ce qu'il manquait à Schulz, c'était ce qu'on appellera plus tard un fixateur. Au 19e siècle, l'anglais Thomas Wedgwood reprit l'expérience de Schulz. Il enduisit des feuilles de papier blanc d'une solution de sel d'argent. À la place du papier découpé, il utilisa comme cage des fleurs ou des feuilles. Mais ces images non plus ne résistaient pas à la lumière. Bien sûr, un moyen de garder ces images aurait été de ne pas les exposer à la lumière. Mais alors, personne n'aurait pu les voir et ça aurait été absurde. L'idée devait venir à quelqu'un de combiner les avantages de la caméra obscura et des sels d'argent. Cette idée ne tarda pas à germer dans le cerveau d'un Français. Nicéphore Niépce. Il utilisa la caméra obscura pour produire une photographie sur une feuille de papier enduite de sel d'argent. Cette expérience se déroula en 1816.
La pause a assez duré maintenant. Bon sang, pourquoi l'image sort-elle toujours inversée?
C'est normal, c'est un négatif.
Hein? Que veux-tu dire par négatif?
C'est une photo.
Qu'est-ce que c'est, une photo?
Une photographie, une image faite par un appareil photo.
J'ai réussi à obtenir une image, mais regarde là, le ciel est noir, et tout ce qui devrait être noir est blanc. Tout est à l'inverse de la réalité. Les images ne sortent jamais correctement. Et ensuite, quand la lumière les touche, regarde ce qu'il se passe.
Non!
Cela va virer au noir.
Oh, je le savais.
Il doit bien exister un moyen d'obtenir une image fidèle à la réalité.
Pour arriver à ce résultat, il abandonna les sels d'argent et fit des expériences avec d'autres produits. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Niépce?
Je recouvre cette plaque de métal d'un vernis composé d'un mélange de bitume. Lorsqu'on expose ce vernis à la lumière, il durcit.
Cette expérience se déroula en 1826. Encore longtemps, monsieur Niépce? Ça fait déjà plus de 8 heures qu'on attend.
Je crois que l'exposition est suffisante.
Oh non! Trop exposé!
Non, maintenant vient la partie la plus importante du procédé. Je rince la plaque dans un dissolvant. Les parties non exposées qui sont moins dures sont dissoutes. Seules adhèrent sur la plaque les parties les plus dures.
Mais regardez, les parties claires et les parties sombres sont toujours inversées.
Les parties claires sont du métal qui n'est plus recouvert par le vernis. Quand je plonge la plaque dans l'acide, le métal est attaqué et devient noir. Maintenant, regarde ce qui se passe quand j'enlève le restant du vernis. Voilà!
Vous avez réussi! Yeah! La première photo! Les parties claires et sombres sont fidèles et cette photo est permanente! Voici la fenêtre d'où Niepce prit cette photo qu'il intitula « Point de vue près d'une fenêtre à Saint-Loup de Varennes ». C'est la première photo de paysage que nous connaissons. Niepce appela son procédé l'héliographie, qui devait être à l'origine de la photogravure. Félicitations, monsieur Niepce.
Grand merci. Maintenant, si tu veux, je peux prendre une photo de toi, Ordi. Veux-tu ne pas bouger pendant 8 heures?
Quoi? Poser pendant 8 heures? Merci, monsieur. Nous voici dans le laboratoire du français Louis Daguerre. Il s'inspira beaucoup des travaux de Niepce. Daguerre essaya d'obtenir des images sur des plaques de cuivre argenté sur lesquelles était déposée une fine couche d'iode. Il espérait pouvoir améliorer l'invention de Niepce, l'héliographie. Je crois qu'il a un moment à perdre maintenant. Allons lui parler. Monsieur Daguerre, puis-je vous parler? Comment se passe votre nouvelle expérience?
Pas trop mal. Tu vois, ça prend trop de temps de faire une héliographie. J'ai découvert que l'iodure d'argent est beaucoup plus sensible à la lumière. J'en dis cette plaque argentée d'iode par évaporation.
La peau sera plus courte alors?
Oui, beaucoup plus courte. La plaque est prête. Tu veux que je fasse une photographie de toi?
Sans blague! J'adorerais être votre modèle! Voilà, je suis prête, monsieur Daguerre.
Cela ne prendra pas plus de 3 heures.
Quoi? Vous voulez rire?
Hé là, tu ne dois pas bouger! Tu dois rester absolument immobile!
Oh, non.
Tu ne dois pas bouger pendant que le curateur est ouvert! Non, mais ne bouge pas!
Oh! Il tient vraiment à ce modèle! Est-ce qu'elle est bien? Je peux la voir?
Il n'y a rien. Il n'y avait sans doute pas assez de lumière.
Oh non!
Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je dois y réfléchir.
Le jour suivant, une surprise attendait Daguerre.
C'est parfait. Comment est-ce possible?
Mais hier, on ne voyait rien du tout, monsieur Daguerre.
Il doit bien y avoir une raison.
Peut-être est-ce magique?
Bah, absurde. Il y a peut-être une réaction chimique causée par un des produits de l'armoire.
Je me demande bien lequel c'est.
Oui, un d'entre eux en tout cas. Je vais faire des tests.
Chaque jour, Daguerre plaça une nouvelle plaque photographique exposée sur l'étagère. Et chaque jour, il enleva une des bouteilles. Quand l'image n'apparaîtra pas, vous saurez que vous aurez enlevé le bon produit.
C'est cela même, Ordi. Cette photo est développée, donc le produit chimique est toujours dans l'armoire. Je vais en enlever un autre.
Chaque jour, Daguerre plaça une autre plaque sur l'étagère, tout en enlevant un des produits jusqu'à ce que finalement il n'en restât qu'un.
Voilà, c'est cela qui agit.
Et qu'est-ce que c'est, monsieur Daguerre?
C'est du mercure. Le mercure s'évapore facilement dès qu'il fait un peu chaud. Ce doit être les vapeurs de mercure qui développent la photographie.
Ainsi fut découvert un autre procédé de photographie. Et cela parce qu'une bouteille de mercure n'avait pas été fermée dans une armoire.
Grâce à cette découverte, il n'est plus nécessaire d'exposer la plaque pendant 3 heures et faire patienter le modèle si longtemps. Aujourd'hui, cela ne prend plus que 30 minutes. Et ensuite, les vapeurs de mercure font apparaître l'image pour nous.
C'est une technique toute nouvelle. On l'appelle le développement. Même exposées pendant un court moment, les sels d'argent forment une image latente. Mais cette image latente est invisible. Le développement est le moyen de rendre cette image visible. Dans la technique de Daguerre, l'image se forme sur une plaque enduite d'iodure d'argent et se développe au-dessus de vapeurs de mercure. Pour arrêter le développement, on plonge la photo dans une solution salée. Ainsi, on a fixé l'image. La manière de fixer la photo n'était pas encore totalement au point. Mais on peut dire qu'à ce stade, le procédé photographique était quasi trouvé. Bravo, monsieur Daguerre!
J'ai appelé ce nouveau procédé photographique le daguerreotype. Regarde, c'est le tout premier appareil photo qui porte mon nom.
C'est la gloire! Voici quelques exemples de daguerreotypes. Regardez comme les images sont belles. Il est difficile de croire que ces photos furent prises il y a 140 ans. En 1839, l'État français acheta le brevet du daguerreotype afin de pouvoir en doter libéralement le monde entier. Le tout Paris courut acheter son appareil et bientôt l'on pouvait voir des gens prendre des photos à tous les coins de rue. Bonjour, je suis au Japon. Ici, le daguerreotype fut appelé photographie à la plaque d'argent. Voici la toute première photo prise au Japon. C'est le portrait d'un seigneur féodal japonais. Remarquez son costume traditionnel.
Allez, allez, venez, approchez tous. Faites-vous tirer le portrait à la plaque d'argent.
Non, 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 allez-vous-en. Si vous prenez mon image avec cette machine, vous enfermez mon âme dedans. Allez-vous-en, espèce de diable.
Oh. Hein? C'est difficile à croire qu'on puisse être aussi superstitieux.
Vous pouvez prendre ma photo si vous voulez. Attrapez donc mon image si vous le pouvez.
J'espère que cette photo n'est pas pour votre mère. Et si vous faisiez un grand sourire, faites cheese.
Cheese. Et de qui vous moquez-vous? L'épée est du mauvais côté. Tout est à l'envers.
C'était bien là l'inconvénient du daguerreotype. La partie gauche et la partie droite sont inversées, tout comme une image dans un miroir. Yeah! Comme ça. Louis Daguerre apporta une merveilleuse contribution à la photographie. Mais l'un des problèmes de son procédé était l'impossibilité de tirer plusieurs exemplaires d'une photo. C'est l'anglais William Fox Talbot qui résolut ce problème. Bonjour, dites-nous comment vous avez trouvé la manière de faire des reproductions, monsieur Talbot.
Voilà, regarde cette photographie.
C'est comme les photos de Niepce. Les noirs et les blancs sont à l'inverse de ce qu'ils devraient être. Cette image montre tout, mais à l'envers.
Mais j'ai réussi à l'inverser en reproduisant l'envers de l'envers, tu vois?
Hein? Je ne comprends rien du tout.
Je vais t'expliquer. Que se passe-t-il si l'on prend une photo de cette photo dont les noirs et les blancs sont inversés?
Eh bien, le noir devient blanc et le blanc devient noir.
On n'a pas besoin d'un appareil pour faire ça. Il suffit de placer la photo contre une feuille photosensible, comme ceci, et de l'exposer ensuite à la lumière. Voilà, les noirs et les blancs sont à présent correctement rendus.
Formidable! Et vous pouvez faire autant de copies que vous voulez en répétant l'opération.
C'est pas plus difficile.
L'image originale avec le noir et le blanc inversé s'appelle le négatif. Et la photo que l'on en tire s'appelle la copie positive. Le procédé inventé par Talbot est encore employé de nos jours. Il découvrit également des produits qui permirent de réduire le temps de pose à une minute.
J'appelle les photos faites par cette méthode des calotypes. Cela veut dire belles images.
Voici le studio de photographie de Talbot. L'opérateur de gauche reproduit un document, celui de droite fait un portrait. Ensuite, Talbot améliora la fixation de l'image grâce au procédé de Herschel. Les progrès accomplis étaient déjà grands et les photos très belles, mais restait un grand problème.
Elles sont trop fragiles et se froissent aussi trop facilement. Et la texture du papier rend la photo un peu floue.
Il faudrait quelque chose de plus durable.
Des plaques de verre seraient idéales, mais le composé argentique n'y adhère pas.
L'utilisation des plaques humides au collodion fut la solution à ce problème. On fit donc des négatifs sur des plaques de verre. Le résultat était aussi fin qu'un daguerreotype et pouvait être reproduit aussi facilement qu'un calotype. Mais tandis que les images s'amélioraient, surgit un autre problème, un problème très lourd. Voici l'Américain George Eastman. Bonjour, monsieur. Avec tout ce matériel, vous allez sans doute camper.
Non, j'ai besoin de tout ça pour faire une photographie.
Hein? Vous voulez dire que vous devez à chaque fois trimballer tout ce matériel?
Malheureusement. Tu sais, j'emploie le procédé des plaques au collodion et je dois développer mes photos immédiatement avant que les produits chimiques ne sèchent sur la plaque. C'est pourquoi je dois transporter mon laboratoire. Oh, ne reste pas là, je ne supporte pas la surcharge, je vais tomber. Il serait grand temps que quelqu'un trouve une meilleure manière de faire des photos.
Et voilà l'appareil Minute. Conçu en 1888, il utilisait un film en rouleau, et comme il suffisait de le charger et d'appuyer sur un bouton pour faire des photos, tout le monde et n'importe qui s'improvisait photographe. Élémentaire, mon cher Eastman, tout ce qu'il restait à faire, c'était... clic. Et la photo était prise. Thomas Edison utilise ensuite les films en rouleau de Eastman quand il invente sa caméra. Le film de cinéma avec ses perforations conduisit à la conception d'appareils photo de petit format. Rendez-vous compte, cette pellicule photo perforée est la même que celle utilisée dans les caméras de cinéma. La photographie a évolué et est employée dans tous les domaines. En science comme en art, pour témoigner de l'histoire ou rendre compte des événements. Et c'est aussi un précieux outil pour la médecine ou pour l'étude de la nature. Les astronomes font également grand usage de photographie. Les météorologistes analysent les images des satellites pour donner des informations souvent vitales aux aviateurs ou au grand public. Vous aussi, vous prenez des photos, n'est-ce pas? C'est une bonne manière de conserver des souvenirs. Peut-être un jour je pourrai voir les photos que vous avez prises.
Quand tu veux. Je te montrerai les photos que j'ai faites dès qu'elles seront développées.
Oh oui, chouette! À propos, vous savez les produits chimiques dont je vous ai parlé, chacun d'eux peut être très dangereux. Alors ne les utilisez pas s'il n'y a pas d'adulte qui vous conseille.
C'est promis.
Je dois partir maintenant, salut.
Les photos sont sûrement déjà prêtes, non?
Allons les chercher tout de suite. Je suis le meilleur photographe du monde.
Elles sont affreuses. Oh non, c'est vraiment gâché la pellicule. Je ne serai plus jamais ton modèle. Tu es le plus mauvais photographe du monde.
Oh.